Bonjour et bienvenue dans notre nouvel épisode de Nostalgique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu qui a été une véritable révolution, et pas seulement pour la franchise dont il est issu. Les révolutions vidéoludiques ne sont pas si nombreuses, mais je vais lever le mystère sur notre sujet du jour. Il s'agit de Resident Evil 4, et on va se mettre dans l'ambiance tout de suite.
I'll never forget it. It was the year when those grisly murders occurred in the Arklay Mountains. Soon after, the news was out to the whole world, revealing that it was the fault of a secret viral experiment conducted by the international pharmaceutical enterprise, Umbrella. The virus broke out in a nearby mountain community, Raccoon City, and hit the peaceful little town with a devastating blow crippling its very foundation. Not taking any chances, the President of the United States ordered a contingency plan to sterilize Raccoon City. With the whole affair gone public, the United States government issued an indefinite suspension of business decree to Umbrella. Soon its stock prices crashed, and for all intents and purposes, Umbrella was finished.
Le développement chaotique de Resident Evil 4 étant connu de tous, je vais le résumer à premier jet qui devient Devil May Cry, le deuxième très vite abandonné, un troisième dont quelques images filtrent avant de repartir sur un quatrième essai dont les phases de gameplay avec Léon poursuivi par un fantôme sont dévoilées puis plus rien. Finalement, difficilement, le 18 mars 2005 en Europe sort Resident Evil 4. Il aura fallu 5 versions et plus de 5 ans de développement pour arriver à cette révolution. Et cette révolution, que nous raconte-t-elle? Déjà, Umbrella n'existe plus, ou du moins officiellement. Et notre ami Leon Kennedy est devenu le garde du corps du président des USA, rien que ça. Et, dans le cadre de son nouveau travail, il est envoyé en Europe de l'Est récupérer la fille du président capturée par des vilains qui grognent en espagnol. Je fais un léger aparté pour vous signaler que ce scénario de série Z pété, à peine mieux que celui des films de la franchise, n'est qu'un prétexte à une succession de moments de bravoure les plus épiques les uns que les autres. C'est bien simple, je crois que c'est les plus épiques que je n'ai jamais vus. Qu'on se comprenne bien, chacune de ces scènes, on les a déjà vues ou revues, peu ou prou. Mais un tel enchaînement, avec une telle maestria et un tel rythme, fou. Bref. Donc Léon a une mission. Il arrive dans un village, fort accueillant, préparant un méchoui avec son prédécesseur. Clin d'œil à Los Angeles 2013 peut-être. Ah ben oui, ce soft est archi pété de références cinématographiques. Et comme j'adore ça, je vais les relever autant que possible. Donc, à peine rentré dans le village, Léon se rend aussitôt compte qu'il a affaire à des êtres humains extrêmement agressifs. Les Ganados, peut-être un clin d'œil à The Crazy. Et comment s'en rend-il compte, mis à part grâce à ses extraordinaires facultés de déduction? Car tous les habitants du dit village se ruent sur lui, armes à la main. Et certains sont particulièrement bien armés d'une grosse tronçonneuse. Non, je ne dirais pas clin d'œil et massacre à la tronçonneuse. Juste parce qu'il utilise cet outil. Et là, on tape dans le dur dès le début. Car se dépêtrer de ce gros groupe d'acharnés qui vous encercle passe par les fenêtres. Ou vous prend un revers avec juste votre petit flingue de base et une poignée de balles, et ben c'est pas rien. Et on est à 15 minutes du jeu maximum. Et c'est seulement à l'issue de cette scène qu'intervient le générique. À la sortie du village, dans un petit chemin, ces Ganados nous envoient un énorme rocher pour nous aider à piquer dans un sprint. Probablement un clin d'œil à Indiana Jones. Le premier, les aventuriers de l'Arche perdue. Léon continue à rôder dans la banlieue du village, et finit par tomber sur le chef des villageois, Mendes. Ce dernier va d'ailleurs l'infecter avec un plagas menaçant d'en faire à son tour un Ganados docile. Néanmoins, il parvient à s'échapper et retourne au village où il va passer par la chapelle pour arriver dans des marais, puis à un lac où il faudra affronter le premier gros boss, le Del Lago. Alors là, il y a peut-être une référence à Lovecraft, cette fois. Un énorme monstre marin que vous allez devoir affronter seul, sur une barque avec quelques harpons. Il s'agit probablement d'un clin d'œil à Dagon, voire à tous les films de gros bestiaux marins, comme Lac Placide, par exemple. Avec la tombée de la nuit, nos amis les Ganados ont des parasites tentaculaires qui leur sortent de la tête comme s'ils n'étaient pas déjà assez dangereux. Probable clin d'œil à The Thing. Léon va devoir traverser un port, puis entrer dans une arène où les Ganados vont lui amener un nouveau copain avec perte et fracas, El Gigante. C'est une sorte de troll, de 4 mètres de haut peut-être, tout droit sorti du Seigneur des Anneaux. Si vous avez été charitable plus tôt, un loup viendra vous prêter main forte. Sinon, il va falloir contourner l'ennemi, lui faire mettre genou à terre, puis l'escalader pour lui ôter son plagas à coups de couteau. Ceci fait, on va pouvoir retourner à l'église, résoudre une petite énigme, se balancer de lustre en lustre comme Jack Sparrow et délivrer la fille du président Ashley. À peine Ashley récupéré et la porte de l'église franchie, une nouvelle horde de paysans vous attend fourche et torche à la main. Clin d'œil à Frankenstein sans doute. Vous pouvez bien évidemment gaspiller vos précieuses munitions ou alors utiliser votre cerveau et leur envoyer une carriole enflammée dans les gencives. En retournant au village, Léon peut envoyer Ashley au-dessus d'un grand portail et courir de concert vers une probable liberté. Mais nos assaillants sont sur nos talons et nous sommes acculés dans une vieille baraque isolée. Clin d'œil probable à la nuit des morts vivants et nouveau méga moment de bravoure rempli à ras-gueule d'épicness. Imaginez un instant, une nuit sombre, une pluie battante, une baraque isolée où vous êtes retranché. Une marée continue et sans fin d'infectés hargneux, une gamine à protéger et un stock de munitions réduit. Ajoutez à cela que les assaillants passent par portes et fenêtres et défoncent même les barricades que vous mettez devant. Ils iront même jusqu'à passer par la fenêtre de l'étage. Vous aurez alors un léger aperçu de la vague de désespoir et de l'horreur pure qui promet de vous submerger. Et aussi soudainement, tout s'arrête. À peine sorti, deux chemins s'offrent à vous. Mais c'est un choix entre souffrance et douleur. Les deux chemins mènent à un grand portail permettant de quitter le village, mais qui est fermé par un dispositif de contrôle rétinien et un pittoresque téléphérique. Évidemment, vous allez emprunter ce moyen de locomotion en esquivant les Ganados équilibristes lanceurs de haches. Arrivé au bout du chemin, se tient une maison dans un cul-de-sac. Et bien que cela sente le piège à plein nez, notre vaillant Léon y entre bien décidé à en découdre avec Mendes et lui ôter la clé du portail de gré ou de force. Mais surtout de force parce qu'il est balèze le salaud. Il va vendre chèrement sa peau et poser de gros soucis à Léon lors de cet affrontement titanesque. Cette victoire permettra de quitter le village et de vous rendre au château des Salazar, sous les jets de fourche des derniers villageois. Néanmoins, il n'est pas si simple d'entrer véritablement dans la vieille demeure familiale du gouverneur. Notre garde du corps va notamment devoir ouvrir les portes à coups de canon. Mais c'est à se demander pourquoi on avance, puisqu'afin de nous savonner la planche, on découvre qu'à l'intérieur un nouveau copain, ou plutôt un nouveau copain bien vénère, le Garador, sorte de Ganados survitaminé croisé avec Freddy Krueger mais aveugle. À cela s'ajoutent les moines infectés, qui sont la nouvelle base de nos ennemis. Clin d'œil probable à ce chef-d'œuvre du cinéma français, Les Rivières Pourpres 2. Vous savez, celui avec les moines Yamakasi et Johnny Hallyday. Bref, malheureusement, Ashley est encore kidnappé et Léon, le blondinet, plonge dans les égouts. Des égouts king-size du château. Il y découvre de nouveaux adversaires, improbables sortes de cafards géants doués d'invisibilité. Néanmoins, notre pugnace héros parvient à remonter dans les parties plus habitables du château, où il essuie de nouveaux pièges à souris géants et des énigmes artistiques simplistes, avant de devoir à nouveau délivrer Ashley, mais d'une manière originale, car il faudra sniper ses entraves et ses surveillants afin de lui permettre de s'échapper. Et vous permettre de l'incarner le temps qu'elle retrouve Léon pour une séquence de tension et de peur pure, car la jeune fille n'utilise aucune arme et est la proie de nombreux fanatiques. Le pic de stress est atteint lorsque l'on se retrouve dans la cave, seul face à des armures décidées à la transformer en sashimi. Une fois le bodyguard retrouvé, nous en reprenons le contrôle pour aller affronter trois dragons mécaniques qui semblent avoir un faible pour le barbecue. Oh merde, je crois que j'ai faim. Bon, une fois tout cela effectué, on monte faire un tour dans le petit train du château, probable clin d'œil à Disneyland, un peu plus loin. Nous nous retrouvons nez à nez avec la ruche produisant les cafards mutants. Je pense qu'il est temps d'en finir avec eux une bonne fois pour toutes avant qu'Ashley ne se fasse encore kidnapper et que nous affrontions un nouveau boss particulièrement retors. Une sorte de grand frère sous stéroïde des cafards mutants qui ne craint que la congélation. Cet affrontement particulièrement stressant terminé, Léon pense se reposer dans des galeries souterraines mais il tombe très vite sur les deux plus gros gigantes de la portée dans une fonderie. Il va devoir faire preuve d'agilité pour faire tomber le premier dans un puits de métal en fusion, clin d'œil à Terminator fort probable, mais le second devra malgré tout être battu avec la méthode habituelle, malgré son imposante carrure. Après cette broutille, Léon ira visiter d'anciennes ruines où des balèzes à la tronçonneuse lui proposent une partie de cache-cache avant de nous proposer une balade en wagon minier. Clin d'œil à Indiana Jones, mais cette fois-ci le deuxième, le temple maudit. Ou alors encore un clin d'œil à Disneyland. À la différence qu'il faut sauter à la fin pour ne pas finir au fond du ravin. car comme le dit le proverbe, qui fait le malin se retrouve au fond du ravin. En remontant, notre blondinet arrivera dans une grande pièce avec un grand bassin et une gigantesque statue du petit Salazar. Il faut activer différents mécanismes pour faire monter le pont qui nous permet de traverser le bassin. Mais il faut le faire en sprintant car la statue s'anime et tente de nous écraser tout en défonçant le château. Il ne reste plus qu'une tour debout, et c'est en haut de celle-ci que se réfugie Salazar le bâtard qui n'attend qu'un bon coup de bazooka dans les crocs pour nous lâcher définitivement la grappe. Mais il vend chèrement sa peau, le fin de race. Une ancienne connaissance, vous informe Cashley, a été transférée sur une île privée militarisée appartenant au Lord Sadler qui nous casse les bonbons depuis le début. Arrivé là-bas, nous suivons donc la trace d'Ashley à travers ruines, labos, chambres froides où nous rencontrons un nouveau copain, le Régénérador, qui, comme son nom l'indique, se régénère à mesure qu'on lui tire dessus. Mais tout cela mène Léon à délivrer encore une fois Ashley et à subir les assauts des sbires militarisés de Sadler avant de se jeter dans une fosse aux ordures où les attend l'Iron Maiden, un régénérateur métalleux couvert de piques. Pour ce qui est probablement un clin d'œil à Star Wars. Dans le but de s'échapper plus vite, Léon demande à Ashley de conduire un camion pendant qu'il nettoie tous les sbires qui leur en veulent. Malheureusement, comme pour illustrer le terrible adage « femme au volant, mort au tournant », Ashley crache le véhicule et se fait une fois encore kidnapper. Ce qui conclut sa carte de fidélité et lui offre le baillon. Notre ami Crozer profite d'un moment de répit et de cinématique pour jouer avec nous à qui c'est qui domine en QTE, avant de disparaître et de laisser Léon seul aux prises avec un nouveau cafard mutant survitaminé dans des hangars suspendus dont seule la chute nous permet d'en finir définitivement. Nous retrouvons alors Crozer dans de vieilles ruines pour lui expliquer que c'est nous qu'on domine, même si cela ne sera pas sans effort, car il s'agit là du combat le plus ardu du jeu. Combat qui laisse d'ailleurs notre cher Léon fourbu. Heureusement, un copain en hélicoptère vient nous prêter main forte avant de s'écraser. Il vous permet néanmoins de retrouver enfin Ashley et de pouvoir vous débarrasser de vos parasites. Je parle des Plagas, hein, pas Ashley, justement. Enfin bref. Et finalement, vous allez expliquer à Sadler qu'il a perdu au terme d'un violent combat réglé à coups de bazooka dans les dents. Et finalement, Ashley et Léon prennent la fuite en jet ski pendant le compte à rebours rituel de la série des Resident Evil. Vous l'aurez sans doute compris à l'écoute de ce long résumé, la durée de vie pour un soft en ligne droite de cette époque est énorme, sans compter les scénarios supplémentaires. Et c'est bourré de moments épiques qui vont vous graver à la rétine. Bon, au début de cette chronique, j'ai parlé d'une révolution, et vous aurez compris qu'il ne s'agit pas du scénario. Tout d'abord, visuellement, sans abuser, le jeu était probablement le plus beau à l'époque, et il tient toujours parfaitement la route. Il est en full 3D, caméra à l'épaule, rien à voir avec les angles de caméra prédéfinis des différents épisodes précédents. Et que dire des QTE permettant d'achever avec classe les monstruosités qui ponctuent l'aventure? Dernier point novateur et très agréable, c'est le vendeur ambulant permettant d'acheter et d'upgrader armes et équipements et dont la mort est définitive. Si vous le tuez en début d'aventure, ça va être très 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 compliqué. Je ne pense pas avoir à vous en dire beaucoup plus sur mon avis. Ce jeu est un indispensable qui engendrait la nouvelle vague de TPS avec panache. Alors, pour tous ceux qui ne se seraient jamais essayé un seul Resident Evil, je pense que commencer par le 4 est quand même une excellente idée. Tout d'abord, vu qu'il n'y a pas Umbrella ni rien dedans, on peut considérer ça comme une expérience un petit peu à part certaines résurgences de personnages. Mais il est en plus très accessible, et on a un peu plus de munitions que dans les autres quand même. Je vais pas dire qu'il est moins effrayant ou plus facile, c'est faux. Mais j'ai pas les mots justes. On va dire qu'en tout cas, il est plus facile d'accès. Il est vraiment plus agréable d'accès et la maniabilité et le gameplay en tout cas est plus simple, plus adapté à n'importe qui, alors que les premiers Resident Evil sont quand même extrêmement rigides. Bon voilà. Bon en tout cas, Resident Evil 4 a été un vrai chef-d'œuvre. Ce qui n'est pas le cas ni du 5 ni du 6. Une série ne peut pas enquiller que des chefs-d'œuvre, donc on peut pas spécialement vouloir au 5 et au 6 de ne pas être des chefs-d'œuvre. Mais alors l'idée super saugrenue et stupide du 5. Shiva. Le deuxième joueur obligatoire contrôlé par une IA complètement stupide. Non mais sérieusement, c'est quoi cette idée à la con? Alors, ok, en ligne, c'est très sympa. Mais quand tu joues tout seul, c'est impossible. Rien que la première scène de Resident Evil 5, copiée sur Resident Evil 4 d'ailleurs, où tout le village nous agresse, si on ne joue pas avec quelqu'un, mais c'est impossible, cet idiote va toujours se faire tuer. Bon, c'était juste un petit coup de gueule sur Resident Evil 5, pardon, on parlait du 4. Pouf pouf, on oublie ce que j'ai dit, on repart sur Resident Evil 4, chef-d'œuvre absolu auquel il faut absolument se frotter. Enfin, au figuré, hein. Voilà. Bon, alors n'oubliez pas de me suivre encore sur les réseaux sociaux, hein, n'oubliez pas, Twitter, c'est nostalgique, Facebook, nostalgique, je suis quasiment inloupable. Et n'hésitez pas, justement, à me faire parvenir vos retours. Est-ce que vous avez pensé des jeux, voire des chroniques en elles-mêmes? Tout conseil ou toute critique est constructive et bonne à prendre. Voilà. Allez, à la prochaine, salut!
Hunnigan, is that you?
Finally, the line's jack free.
Hey, Hunnigan, no glasses.
Forget the glasses. What's the status of the mission?
I've rescued the subject. We're returning home.
You did it, Leon.
Thanks. You know, you're kind of cute without those glasses. Give me your number when I get back.
May I remind you that you're still on duty?
Story of my life.